Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ça va?
Oui,
ça va. Gloire à Dieu, bonsoir à tous nos amis, Philippe, Marie-Claire, tous ceux qui nous suivent fidèlement. J'ai oublié bonjour à Philippe et Marie-Claire parce qu'ils sont de notre communauté, bien qu'ils ne soient pas tout à fait présents physiquement ici, puisqu'ils sont nos Josué et Caleb, là-bas où nous allons aller bientôt. Et on a des bonnes nouvelles, j'ai encore reçu des bonnes nouvelles, je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais pour ce soir, là, pour tout de suite, on va commencer par la prière. Et ensuite, nous ferons une lecture dans la parole de Dieu. On commencera par Luc chapitre 14. Prions le Seigneur. Merci Seigneur Jésus de nous donner des forces nouvelles et de nous permettre de nous recadrer si besoin est, afin que nous ne nous laissions pas emporter par tout vent de doctrine et d'idées, et que nous soyons véritablement toujours dans la vision que tu nous as donnée au départ. Et ayant commencé par l'Esprit, nous voulons terminer aussi dans l'Esprit. Aide-nous, Seigneur Jésus, à être clair avec toutes ces choses. Merci, mon Dieu. Amen. Donc, je vais vous faire une lecture dans Luc, chapitre 14, à partir du verset 25. Luc 14. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Ça a dû jeter un froid, hein? Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Ça aussi, ça a dû jeter un froid, parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire, porter sa croix. Ils envoyaient souvent des gens mis en croix là-bas, hein? Nous, c'est un peu religieux, la croix, hein, pour beaucoup. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « Cet homme a commencé à construire et n'a pas pu finir ». De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui vient d'attaquer avec 20 000. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il envoie une ambassade pour demander la paix, c'est-à-dire l'intelligent. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Amen. C'est clair ? Tous les chrétiens connaissent les merveilleux versets de 1 Corinthiens 13 au sujet de l'amour. On se gargarise avec ça, l'amour est ceci, l'amour est cela, et c'est tout à fait vrai. Alors on entend, à cause de ce texte magnifique sur l'amour et à cause de l'idée qu'on se fait de l'amour, on entend de plus en plus des gens dire, et encore quelques jours quelqu'un l'a dit, il n'y a pas d'amour dans cette église. Il n'y a pas d'amour dans telle et telle église. Mon Dieu, que cela est faux. L'amour est partout où le nom de Jésus est invoqué, mes frères et sœurs. Le problème, c'est que beaucoup se trompent au sujet de ce que c'est que l'amour. Ils l'idéalisent. Dieu est amour. C'est absolument vrai. Et c'est lui qui est venu nous chercher par amour, alors que nous étions perdus. Souvenez-vous comment il vous a trouvé, dans quel état il vous a trouvé. Moi, je me souviens comment chaque personne de la communauté était quand on les a trouvés. Je me rappelle de tous comment ils étaient, tous. Il vous a fait signe de le suivre. Vous vous rappelez, à cette époque, je prêchais souvent « Vends tout et suis-moi ». C'était cet homme qui venait vers Jésus qui disait « Que faut-il faire pour avoir la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Il te manque une chose. » Il dit « Qu'est-ce qu'il faut ?» Alors il cite tous les commandements, il dit « C'est bien, mais il te manque une chose. Vends tout et suis-moi. » Et je disais, vous voyez, suivre Jésus, c'est vendre tout et le suivre. Renoncer à tout et le suivre. Ce n'est pas simplement le suivre comme on veut. Et tout de suite, là, Jésus montre qu'il y a une exigence. L'amour a été exigeant envers vous tout de suite. Et combien ont refusé de le suivre parce qu'ils ont trouvé que Jésus, le chemin, était trop rude, trop escarpé, trop étroit. Il n'a jamais dit que ça serait facile. Parce que c'est par manque d'amour. Je me souviens au début donc, de nos vies communautaires, je prêchais toujours, très souvent, ce texte sacré « Ventoux et suis-moi ». Et j'ai remarqué que cela faisait fuir plus de personnes que cela n'en rassemblait. Mais quel était le but? Le but, c'était de créer une communauté telle que la Bible nous la montrait, c'est-à-dire des gens qui s'aimaient les uns les autres, qui donnaient tout, qui renonçaient à tout, et qui vivaient comme les premiers chrétiens vivaient à l'époque des apôtres. Nous ne voulions pas reproduire la vie d'une église telle que nous l'avions connue avant. Nous voulions vivre une vie différente. Pas n'importe comment, mais comme les actes des apôtres nous le disaient. Alors je me rappelle qu'autrefois, Jésus pleurait sur Jérusalem en disant « Combien de fois ai-je voulu te rassembler sous mes ailes comme une poule rassemble ses poussins ?» Et en cette fin des temps, il pleure sur son église qui est devenue vomissable. On trouve ça dans Apocalypse 3, je crois. Et il lui dit « Viens à moi, ventoux et suis-moi, viens à l'abri de mes ailes, comme un poussin à l'abri des ailes de sa maman poule. » C'est le même appel qu'il lance encore et encore et encore. Mais beaucoup ont peur. Peur de quoi? Chacun sait que les plumes cachent une épée. Il y a une épée cachée dans les pennes des ailes qui cherchent à vous étreindre. Si vous ne savez pas ce que c'est les pennes des ailes, vous prenez un dictionnaire et vous allez vous renseigner pour savoir ce que c'est que les pennes. Je vois que Rachel, elle sait parce qu'elle a vécu beaucoup à la campagne. Les pennes des ailes cachent une épée et ils ont peur d'être blessés par cette épée. Pourtant, cette épée ne blesse que pour le bien. Oui, Dieu est amour. Et il nous couronnera à la fin du voyage. Et de même qu'il va vous couronner, il va d'abord vous crucifier. Qui pense à ça? Qui pense à ça aujourd'hui, dans notre société de consommation où on veut tout, tout, tout de suite, où on veut que tout soit lisse, que tout soit parfait? Que le pasteur nous dise des choses gentilles, positives, qui nous font du bien uniquement et qui ne nous charrient pas trop, qui ne nous bousculent pas trop. Dieu ne veut pas autre chose que la mort de notre vieille nature. Et son amour tue cette nature pécheresse. Il l'annonce clairement dès le départ, clairement. Avant de le suivre, il faut d'abord renoncer à sa propre vie, à ses parents, à ses ambitions personnelles, à ses petites doctrines, à ses biens, à tout, à sa propre vie, à ses propres droits même, dit l'apôtre Paul. Alors oui, c'est vrai que Dieu est amour et il est dans son Église. Et son amour vient jusqu'à vous pour vous caresser, pour vous bénir, c'est vrai. Il se fait absolument tout à tous pour attirer le plus grand nombre. Et l'amour est attirant. Qui c'est qui n'aime pas être aimé? Alors, à l'époque, on était jeunes. Moi, j'avais 20... Quel âge j'avais? 20, 27, 26, 25 ans, par là autour. Nous étions comme des jeunes arbres. Et l'amour de Dieu a soufflé dans nos jeunes branches délicates. On a ressenti son amour, on a vu sa bonté, on l'a vu guérir des malades, on l'a vu sauver des drogués, on a vu bénir des gens d'une façon tellement merveilleuse. Mais il est aussi descendu jusqu'à nos racines et il les a bien secouées, non? Parce qu'on était bien accrochés à la terre. Il a fait ça par amour. Ça a commencé très tôt. Rappelez-vous, ceux qui, les anciens dans la communauté, la perte de notre fils, Amichou et moi, notre premier fils Marc, la perte de nos amis qui ont dit que nous étions des escrocs, la perte et les diffamations et les menaces même. Seuls les plus courageux ont accepté l'appel parce qu'ils ont compris que l'amour n'était pas ce que le monde prétend qu'il est. Et Jésus nous a bien avertis, on n'est pas trompé. Il nous rassemble dans son Église, dans sa communauté, comme une gerbe. Et dans son Église, il dit, je vais vous battre pour vous dénuder. Il ne nous avait pas avertis, bien sûr qu'il nous a avertis. Il a dit, j'ôterai la balle. Qu'est-ce que c'est la balle? Ah, ça, on n'y pense pas beaucoup. La balle, c'est la petite peau, la petite enveloppe qui entoure le grain. Il faut l'enlever. Il vient avec son vent à la main. Vous savez ce que c'est un vent? Bien sûr, maintenant, tout le monde vit à la campagne. On pense que le pain, ça pousse dans les boulangeries. Mais un vent, c'est un appareil avec lequel on frappe sur les grains de blé jusqu'à ce que la balle s'envole, s'en aille. Parce qu'elle est plus légère, elle s'envole au vent. Et pour l'ôter, il a son vent à la main, ce vent. Regardez, vous savez pas ce que c'est un vent? Prenez votre dictionnaire, allez chercher. La Bible parle de ça. La Bible nous avertit qu'il vient avec son vent à la main. Est-ce que c'est ça l'amour de Dieu? Oui, c'est ça l'amour de Dieu. Comment est-ce que ça peut être de l'amour? C'est le vrai amour, pas celui que le monde peut connaître. Alors, certains se sont jetés dans les bras de l'amour de Dieu, mais sans comprendre vraiment ces choses. Moi, j'avoue, au début, quand je me suis converti, je ne comprenais pas ces choses. J'ai vite compris, hein. Ça a commencé quand trois pasteurs gitans de Suisse m'ont accusé d'adultère auprès du pasteur Lekosek. J'ai vite compris, là, hein. J'ai dit, oula, ça commence dans l'église. Waouh! Le pasteur Lekosek ne les a pas crus, il y a eu toute une histoire, finalement ces trois pasteurs sont tombés, et j'ai été réhabilité, mais c'était toute une histoire. Camélia avait pris notre défense, même Archange à l'époque avait pris notre défense, Raphaël s'était battu aussi pour nous, et je n'en revenais pas que c'était, il y avait ça dans l'Église. Oui, bien sûr, c'est Dieu qui permet ça. Je m'étais jeté dans les bras de l'amour de Dieu sans comprendre vraiment ce qui m'attendait dans l'Église. Par contre, il y en a, après les premières épreuves, hop, il n'y a plus personne, ils s'en vont. Ils disent, il n'y a pas d'amour là-dedans. Ah ouais, mais moi aussi j'étais tenté de dire, il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais j'ai regardé où il y avait de l'amour. J'ai vu de l'amour dans le Cossack, j'ai vu de l'amour dans Camilla, j'ai vu de l'amour dans mes futurs beaux-parents, j'ai vu de l'amour dans plein de gens, je n'ai pas vu que les gens qui étaient bizarres. J'ai vu de l'amour dans Raphaël, dans Violette, qui prenait ma défense comme une lionne. Je l'ai vu. Mais il y en a, au bout de quelques temps, hop, ils s'en vont et disent, il n'y a pas d'amour là-dedans, c'est dur. Et ils disent aussi, les bergers sont durs, les pasteurs. Oui, le berger est dur. Même Jésus ne nie pas qu'il est dur. Et puis ses ministres sont durs aussi, mais jamais ni le bon berger, ni ses ministres n'ont prétendu le contraire. Regardez dans les Écritures, Jean 6, 60, je crois, où il est dit, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Qui c'est qui disait ça? Les gens qui écoutaient parler, Jésus, le Dieu d'amour. « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Un autre dit, « Maître, je sais que tu es dur, Matthieu 25, 24, et que tu récoltes là où tu n'as pas semé. » Et Jésus dit, « Tu savais que je récolte où je n'ai pas semé. » Matthieu 25, 26, donc tu savais que c'était dur. Tu savais que je suis dur, tu savais que je suis exigeant. Eh bien, tu aurais mieux fait de placer ce que je t'avais donné dans une banque pour que ça rapporte quelque chose plutôt que de l'enterrer. C'est dur, qui peut écouter une parole pareille? Alors certains ont accepté d'être débarrassés, d'être battus, d'être débarrassés de la balle. Mais quand est arrivé le moment de passer au moulin, alors là, c'est trop, là. Trop, c'est trop. Pourtant, ils savaient que Jésus avait dit, si le grain ne meurt, il ne peut pas porter de fruits. Seulement voilà, c'était plus un verset. Là, tout d'un coup, ça devenait la réalité. Puis c'était pas que au sujet de Jésus qui devait donner sa vie, c'était aussi moi dans l'Église qui dois donner ma vie. Il fallait aussi donner ma propre vie, renoncer à ma propre vie, renoncer à mes droits. Moi, passer sous la meule, dans le moulin, être écrabouillé. Et puis ça ne s'arrête pas là. Il fallait être pétri. Ah non, le pain ne pousse pas dans les boulangeries, hein, ni sur des arbres à pain. Hein. Il y a tout un travail derrière de souffrance. Il fallait être pétri jusqu'à être rendu malléable. Je dis qu'on vit dans une société d'efféminés. Les hommes ne font plus leur service militaire maintenant, et bien ça leur ferait du bien parce que là-bas, à l'armée, on nous pétrit jusqu'à ce qu'on soit malléable et qu'on obéisse à n'importe quel ordre. Vous allez me dire, ah bon, oui, ça c'est l'armée, mais avec Jésus, c'est la même chose, on obéit sans discuter. Oui, mais moi, je pense qu'avec Jésus, on n'a pas de « je pense que ». On obéit, c'est tout. Oh, Michel, c'est dur. Qui peut écouter une telle prédication ? Eh ! Ah bon, c'est ça, l'amour dans l'Église ? L'Église, ce n'est pas un club de réjouissance. L'Église, ce n'est pas un endroit où on va pour chanter et pour taper des mains et pour pleurer de joie avec les mains levées en louant le Seigneur. L'Église, c'est l'atelier de Dieu. On est dans les mains du potier, il nous forme. Et puis ça, si ça ne marche pas, il nous écrabouille et il recommence. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce n'est pas vrai ? Qu'est-ce que c'est cette histoire de cet amour dégoulinant qui doit vous passer tous vos caprices et qui doit... Et ceux qui ont accepté d'être pétris, qui ne sont pas partis avant, ils ont peut-être pensé que ça allait aller mieux après. Eh ben non, pas du tout. Le Dieu d'amour les a livrés à son feu sacré afin d'en faire le pain sacré du festin sacré de Dieu. Parce que, mes frères et sœurs, il faut réaliser une chose. Si Jésus est le pain descendu du ciel, nous, son Église, nous sommes le pain qui allons monter au ciel. Et le pain, ça ne pousse pas dans les boulangeries. C'est une matière qui a souffert. Oh, le pasteur est dur. Il veut que mes enfants disent bonjour. Mais quelle horreur! Ça ne se fait plus. Quel autoritarisme abusif! Tiens. Tout cela... C'est l'amour qui le fait. C'est par amour que Dieu le fait, afin que vous sachiez qui vous êtes et que vous renonciez réellement à ce qui est de la chair pour devenir une partie de la sainteté de Dieu. La Bible nous dit « l'amour bannit la crainte ». Si vous ne savez pas ça veut dire « bannir », vous prenez un dictionnaire. Je suis sûr qu'il y en a qui ne savent pas encore. Parce qu'aujourd'hui, on ne parle plus français, MDR, XPTDR, LOL, mais on ne parle plus français. Maintenant, on va dire les... Déjà, on a commencé il y a quelques années en disant, on peut dire les haricots. Maintenant, on va écrire les oignons. Vous avez vu comment on pourra écrire les oignons ? Enfin, voilà, tout fout le camp. Mais bon, c'est comme ça. L'amour bannit la crainte. Voilà où se trouve l'erreur des gens de ce monde. Dans leur frayeur, parce qu'il y a de quoi avoir peur aujourd'hui, dans leur frayeur, ils ne cherchent que la paix dans l'amour. C'est ça leur erreur. Dans leur frayeur de ce qui est en train de se passer, ils veulent rentrer dans l'Église parce qu'ils veulent chercher le plaisir de l'amour. Ou ils vont dans les bars, ou dans les boîtes, ou n'importe où pour chercher le plaisir de l'amour. Mais ils ne savent rien de l'amour de Dieu. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils trouvent Dieu injuste. Ils le disent, hein, certains. Ouais, si j'étais Dieu, je ferais les choses autrement. Puis d'autres, un peu plus timorés, disent, ils diront jamais que c'est Dieu, mais par contre, ils diront « le pasteur est injuste ». C'est tellement plus facile. Oh, mes frères et sœurs, comme le dit Jésus à Jean, ils sont nus. Il faudrait qu'ils couvrent leur nudité, ou alors qu'ils quittent l'ère de battage de l'amour, c'est-à-dire l'Église. L'Église, c'est ça. Bien sûr que c'est aussi un endroit où il y a cette simplicité fraternelle, cet amour fraternel, ces joies, toutes ces choses que nous vivons. Mais il y a aussi les épreuves, il y a aussi les contraintes. Qui osera dire à Jésus comment il doit faire ? Vous ne pouvez pas diriger l'amour. C'est lui, s'il vous trouve digne, qui va vous diriger. S'il vous trouve digne, sinon il ne vous dirige pas, il vous laisse. Mais qui va accepter de porter sa croix ? Qui va accepter de saigner de son plein gré ? Qui va accepter de saigner avec joie ? Oui, mais... Alors, autre jour, quelqu'un a écrit « Oui, mais au début, il y avait de l'amour dans la communauté, et puis voilà, et puis ça a beaucoup changé quand même, il y avait de l'amour. » Vous savez ce que ça veut dire, ça ? Oui, il y avait de l'amour parce qu'ils étaient amoureux et ils acceptaient les contraintes de l'amour. C'était ça, la chose. Quel est cet amour sans contraintes ? Qui aime librement comme il veut. C'est l'amour que connaissent les gens du monde. Un amour libre. Je fais ce que je veux. Ça n'a rien à voir avec l'amour de Dieu pour son Église. Ça n'a rien à voir avec l'amour du disciple pour son Dieu et pour son Église. Rien. Mais rien du tout. Oh, mes frères et sœurs, soyez fidèles à l'amour, soyez fidèles à Dieu. Même si vous êtes blessé par votre propre idée de ce que c'est que l'amour. Dieu ne veut que votre bien. Et toute cette œuvre qui fait mal à votre chair, c'est une œuvre de l'amour de Dieu pour vous. C'est ça le chemin étroit. C'est ça le chemin escarpé. C'est ça le chemin qui est plein d'embûches. C'est pas... le chemin du monde, large et spacieux, où on peut éviter les embûches, où on peut éviter les contraintes simplement en divorçant. Oh ben, il n'y a plus d'amour. Comment ça, il n'y a plus d'amour ? Ben non, l'amour, c'est un truc qu'il y en avait, puis il est parti. Ah bon ? Ouais, il est parti, l'amour. Les chansons vous disent ça sans arrêt à longueur de journée. Ce n'est pas l'amour qui est parti, c'est vous qui avez abandonné l'amour. C'est autre chose. Il faut arrêter d'être des malades mentaux comme dans le monde. Dans le monde, on évite les contraintes de l'amour simplement en abandonnant nos engagements. Pour aller manger de l'herbe qu'on pense être plus verte, là où ça nous plaît, on fait comme on veut. Mon église ne me plaît pas, ben je vais dans une autre. Où j'en crée une, dans le salon de la sœur Truchemou, ou dans sa cuisine. Plus nous approchons de la fin des temps, mes frères et sœurs, de la vraie Église sur terre, plus les épreuves vont devenir grandes, je ne vous l'ai jamais caché, et je vous le redis encore ce soir. Alors c'est le moment de renoncer maintenant, ou de continuer, c'est le moment de prendre la décision. Voulez-vous renoncer ? Allez-vous terrer dans le confort inconfortable de la vie des gens sans lumière ? Soyez conséquents, mes frères et sœurs. Vous avez commencé avec le Saint-Esprit. Il faut que vous terminiez la course avec le même Saint-Esprit. Et vous serez reçus dans la paix éternelle où Dieu essuiera toutes les larmes de vos yeux et de vos cœurs. Pourquoi est-ce qu'il essuiera les larmes de vos yeux ? Parce qu'il sait très bien que vous allez pleurer encore. Et ce qui fait pleurer, ce n'est pas tellement les souffrances qu'on reçoit de la part des gens du monde, c'est les gens du monde, mais c'est les souffrances qu'on reçoit de la part de ceux de notre propre maison, de ceux qu'on aime, de ceux avec qui on a construit des choses et qui nous blessent et qui nous font mal. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça ? Eh bien, on va continuer à les aimer, On va continuer à prier pour eux, on va être miséricordieux, mais on ne va jamais renoncer à vivre cet amour que Dieu nous a invités de vivre, sachant que ça coûte quelque chose. On s'est assis suffisamment longtemps pour réfléchir. Maintenant, c'est le moment de la décision. Qu'est-ce que je fais? Stop ou encore? Stop ou encore? C'est pas une émission sur RTL, ça? Moi, je dis encore, jusqu'à mon dernier souffle avec Jésus, jusqu'à mon dernier souffle avec ce que la Bible dit. Et même si ça ne plaît pas aux gens, tant pis. Moi, ce que je cherche, c'est plaire à mon Dieu. Amen. Merci, Jésus, d'avoir recadré les choses ce soir. Nous avons montré que ton amour n'est pas un amour d'efféminé qui fait n'importe quoi, n'importe quand ça lui plaît, et qui fuit quand ça ne lui plaît pas, et qui, Seigneur, veuille bénir ces pauvres gens qui sont ballottés d'un endroit à un autre, et qui changent, et qui Seigneur, bénis-les et pardonne-leur leurs fautes. Aide-les, Seigneur Jésus, à revenir dans le droit chemin. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Donne à chacun, comme dit l'apôtre Paul dans Corinthiens, d'être viril dans sa foi, c'est-à-dire d'être courageux au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de courage dans l'Église. Merci, Seigneur mon Dieu. Amen. Amen.